L'Hebdo Région, Thomas Cochebret sur RCF et Radio Fidélité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine d'actualité régionale. À la une, cette semaine, la grève des médecins libéraux qui réclament une hausse des tarifs de leurs consultations. Et vous verrez qu'ils semblent divisés sur ce montant de cette revalorisation. Et comme le manque de médecins ne concerne pas que les généralistes, mais aussi les spécialistes, nous irons direction la Mayenne pour évoquer une initiative entre ophtalmologistes et orthoptistes afin de pallier à ce manque de praticiens. Rencontre ensuite avec Michel Ferret, le responsable de l'antenne vendéenne de 60 000 rebonds, une association qui organisait cette semaine le premier forum du rebond pour les chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan. Rencontre ensuite avec Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique. Il était au Mans pour les journées des communautés éducatives. Et enfin, une sortie, le voyage à Nantes, qui d'habitude se déroule en saison estivale, mais là qui innove et qui nous propose un nouvel événement hivernal. Voilà donc pour le programme de cette Hebdo Région. Il vous est présenté comme chaque semaine par la rédaction de RCF Anjou, en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
C'est une profession qui n'a pas l'habitude de se mettre en grève. Les médecins libéraux étaient appelés à fermer leur cabinet jeudi et vendredi. Cet appel était lancé par le collectif Médecins pour Demain, qui réclame une hausse des tarifs des consultations. Le mouvement a reçu le soutien de l'ensemble des syndicats de la profession et il a été plutôt suivi dans la région Marion Bastide.
C'est surtout le cas chez les généralistes. Ils ont été nombreux à cesser les consultations. Le docteur Isabelle Noé-Martineau, installée à Muré-Rigné, près d'Angers, a donc fermé son cabinet pendant 2 jours. C'était la première fois de sa vie qu'elle faisait grève. C'est le signe d'une colère qui monte depuis longtemps chez cette membre de la Confédération des syndicats médicaux français.
Ça fait déjà 3 ans qu'on a alerté sur le fait qu'il y a une dévalorisation de la profession et qui fait qu'on voit bien qu'il y a un manque d'attractivité de nos cabinets de la médecine libérale auprès des jeunes. Et c'est quelque chose qui nous inquiète au même titre que la population. Ça fait 5 ans que les tarifs sont bloqués alors qu'il y a l'inflation partout. Donc les médecins sont demandeurs d'une revalorisation et on se rend compte que les jeunes estiment que les cabinets de médecine généraux ne sont plus intéressants pour eux. Et donc on est vraiment inquiet pour l'avenir de la profession. On est demandeur que la consultation médicale soit revalorisée à 30 euros pour compenser l'inflation, qu'il y ait des consultations complexes à 60 euros pour pouvoir gérer les choses complexes et qu'on ait ensuite les moyens de pouvoir prendre en charge les patients sans médecin traitant par rapport à la problématique des déserts médicaux. On est contre la 4e année d'internat de médecine générale telle qu'elle est décidée actuellement dans les déserts médicaux sans encadrement sérieux, parce qu'il faut vraiment que s'il y a une 4e année d'internat, ce soit quelque chose de formateur pour les jeunes et vu avec eux et accepté avec eux. On est contre la coercition à l'installation parce que ça va faire fuir les jeunes plutôt que de les aider et que ça sert à rien de stigmatiser les déserts médicaux, parce que si on continue comme ça, c'est toute la France qui sera un désert médical.
Si elle plaide pour une consultation de base à 30 euros, d'autres réclament beaucoup plus. C'est le cas du docteur William Joubert, généraliste au Mans. Il préside l'Union nationale des professionnels de santé.
Ce qu'on a comme ligne d'horizon, c'est se remettre au niveau de la consultation européenne. Dans les pays équivalents, la consultation elle est entre 40 et 70 euros. Et c'est plutôt 70 euros pour les pays qui se comparent aux nôtres en taille de population. Bien sûr, hein, on sait que le trou à combler pour nous redonner les moyens d'être attractifs, de s'acheter du matériel, d'embaucher. Un médecin généraliste sur deux n'a pas de secrétariat physique, donc pour travailler, c'est compliqué, quoi. Hein, voilà, c'est au détriment du temps médical. Si vous voulez, quand on hésite à s'acheter un échographe, un dermatoscope, parce que ça coûte plusieurs milliers d'euros et qu'on sait qu'on va... La consultation ne remboursera même pas. On est dans un monde qui n'est pas logique. On nous propose des subventions avec à la clé du travail. Il faut écrire des projets de santé, il faut écrire des rapports d'évaluation, faire des réunions. Voilà, et tout ça sous détriment du temps médical. Et ça participe de la désaffection et du manque d'attractivité.
Aujourd'hui, 11% des Français n'ont pas de médecin traitant. Face à ce problème, le gouvernement veut permettre l'accès à plus de spécialistes sans avoir à passer par un généraliste. Une mauvaise solution pour le docteur Teddy Bourdet. Le président du syndicat des médecins généralistes de Vendée prône d'autres mesures.
Ce qu'on veut déjà, c'est que par exemple, les téléconsultations ne soient remboursées que si c'est le médecin traitant qui l'a fait. Dans le cas où les gens n'ont pas de médecin traitant, il y a des solutions de soins non programmés et de suivi qui sont mises en place soit dans les cabinets, soit en centre de proximité dans toute la Vendée. Rembourser toutes les téléconsultations avec des médecins qui ne sont pas sur le territoire, ça augmente la dépense de soins et finalement ça ne répond pas aux besoins de proximité de la population. Donc avoir des locaux. Aujourd'hui, la plupart des médecins ont besoin de 2 bureaux pour consulter parce qu'ils ont des internes, parce qu'ils ont des infirmières à zaler, parce qu'ils ont des assistantes. Et le modèle économique du généraliste ne lui permet pas de doubler ses loyers s'il en trouve en plus, parce qu'il y a bon nombre de villes où il n'y a pas de locaux disponibles juste à côté. Donc les aides aux locaux, les aides à l'équipe, puisque dans les autres pays européens, il y a 3 salariés par médecin. En France, on est à 1,5. Si on veut que les médecins généralistes aient une secrétaire, une assistante, une infirmière, eh ben, il lui faut de l'aide. Et aujourd'hui, ces aides, elles sont toujours conditionnées à toujours plus de contraintes.
Le collectif Médecins pour Demain appelle d'ores et déjà à une grève dure à partir du 26 décembre.
Un reportage signé Marion Bastide pour RCF Anjou. Et pour faire suite au problème de manque de médecins qu'on évoquait juste avant, le maire de Grue en Vendée, ce petit village, a masqué le mot « égalité » sur le fronton de sa mairie. Gilles Vatiot souhaite ainsi rappeler que le droit à la santé est censé être égalitaire sur tout le territoire et c'est à l'État de s'en assurer. Mais le préfet lui a rappelé le respect de neutralité des services publics. Gérard Gavory ajoute qu'il interdit de mobiliser la symbolique républicaine pour porter un discours intentionnellement polémique.
L'Hebdo-Région, initiative.
Mais vous le savez, la pénurie de professionnels de santé ne touche pas que les médecins généralistes. C'est le même problème avec certains spécialistes, comme par exemple les ophtalmos. Alors pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologiste, il fallait compter en 2019 55 jours pour les cas urgents, entre 61 et 68 jours pour les autres cas. Alors pour faire baisser cette statistique, des solutions ont été trouvées en ayant recours tout d'abord à Internet pour les rendez-vous, mais aussi aux orthoptistes pour seconder les ophtalmologistes. Cette solution est à l'essai à Mélédumène en Mayenne où nous partons retrouver Isabelle Rupin de Radio Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas, ouais, c'est Claire Herp, praticienne au centre hospitalier de Laval, qui a donc ouvert un cabinet secondaire, selon son expression, ce qui permet en outre d'éviter aux patients de venir jusqu'à l'hôpital.
Après 25 ans de pratique dans le centre hospitalier, je remarque que la prise en charge des patients est de plus en plus lourde, les moyens mis en œuvre sont lourds et l'accessibilité est de plus en plus difficile. Donc j'ai envisagé effectivement de déporter une partie de mon activité en proximité dans le territoire donc de Mélé pour permettre aux personnes qui le souhaitent de venir consulter une orthoptiste qui travaille avec moi en collaboration pour assurer les dépistages visuels.
Concrètement, la procédure est assez simple.
Toute personne sans antécédent pathologique oculaire connu peut prendre rendez-vous soit sur Doctolib, soit auprès du secrétariat de VisioMélé pour donc avoir une visite, être reçue par l'orthoptiste et examinée. Le compte-rendu de la consultation me sera adressé. Je visualise celui-ci et valide la prescription de verre correcteur qui a été déterminée par l'orthoptiste.
Et on constate, Thomas, combien le travail des orthoptistes est crucial.
Le travail aidé permet d'augmenter l'accueil des patients, que ce soit en cabinet privé ou dans les secteurs hospitaliers. C'est une modalité qui est très appliquée depuis quelques années.
Les orthoptistes peuvent également déceler une pathologie et dans ce cas...
Alors, je peux reconvoquer sur site, donc à Mélé, les patients qui méritent un examen un petit peu plus approfondi. Pour les explorations complémentaires n'étant pas accessibles sur site, les patients sont réadressés soit vers un ophtalmologiste, soit éventuellement à l'hôpital à Laval.
Cette solution pourrait permettre d'envisager l'avenir plus sereinement, même si le rôle de l'ophtalmologiste est irremplaçable.
Le numerus clausus, oui, est augmenté. Il y a de plus en plus de jeunes en formation à l'hôpital d'Angers en ophtalmologie. Reste à les attirer en Mayenne. Voilà, tout un programme politique à développer.
Et les retours sur cette expérimentation installée donc depuis octobre sont très positifs.
Très bons jusqu'à présent. Les consultants sont satisfaits de par la proximité, la rapidité de prise en charge. J'espère le service à la population locale pour faciliter l'accès aux consultations de première intention.
Voilà Thomas, ce cabinet délocalisé et cet examen réalisé par un orthoptiste est vraiment une façon de pallier au manque de praticiens et de faciliter l'accès aux soins des patients.
Merci beaucoup Isabelle, on a bien noté les deux volets, à la fois gagner du temps en établissant un diagnostic par les orthoptistes et en délocalisant le lieu d'examen. Et gageons que cette expérimentation basée à Mélède-Humaine dans le sud de votre département pourrait bien faire des émules et pas seulement en Mayenne.
L'Hebdo-Région, rencontre avec.
Et direction La Roche-sur-Yon pour y retrouver Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors les vertus de l'échec étaient au cœur d'une soirée organisée mardi dernier dans votre département.
Oui, le premier forum du rebond était organisé par 60 000 Rebonds Grand Ouest. Cette association accompagne les entrepreneurs post-liquidation à rebondir vers un nouveau projet d'activité. En 2021, 105 ont pu bénéficier de l'action des 225 bénévoles engagés, des coachs, des parrains, des experts. Et depuis la création de l'association en région Grand Ouest, 95% des entrepreneurs accompagnés ont rebondi. Michel Ferré est le responsable de l'antenne Vendée de 60 000 Rebonds Grand Ouest.
La vie n'est qu'une succession d'événements. Là, on est sur le terrain économique, bien entendu, mais qui impacte évidemment la société et la famille en général, parce que lorsqu'il y a un dépôt de bilan, on disparaît de l'écran radar de la société. Et là, on voit les vraies relations. Et ceci dit, il ne faut jamais désespérer. Et il faut toujours tendre la main, se dire qu'on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut d'abord se prendre en charge. Et en Vendée, on a cette chance d'avoir cette solidarité naturelle hein, qui nous anime et qui fait qu'on peut régler les problèmes très, très rapidement. Et je dirais que c'est du bénévolat pur et c'est ça qui est notre moteur. On partage l'essentiel. On a des personnes qui arrivent dans une grande précarité. Et là, on est dans la vraie vie, on n'est pas dans le monde des apparences et ces personnes nous apprennent autant que ce qu'on peut leur apporter.
Lors du forum de mardi, le philosophe Raphaël Enthoven est venu réfléchir sur les bienfaits de l'échec, un temps de réflexion proposé aux chefs d'entreprise afin de les sensibiliser à la détresse à laquelle ils peuvent être confrontés lors d'un dépôt de bilan. Cela a été le cas de Thierry qui a perdu son entreprise juste avant le premier confinement.
Pour donner un ordre d'idée de ce qui m'est arrivé, c'est pas compliqué, hein, entre février 2020 et juin 2020, j'ai perdu 18 kilos. Et puis après tout autour est compliqué, vous venez de perdre beaucoup d'argent, vous disparaissez de la société parce que faut savoir que quand on est chef d'entreprise, quand vous passez en liquidation et que vous perdez votre entreprise, vous n'êtes plus rien dans la société. C'est-à-dire que quand je dis plus rien, c'est vous n'avez même pas le droit au chômage. Vous hésitez à aller voir les gens, vous hésitez à sortir, vous hésitez sur tous les sujets, vous vous demandez qu'est-ce qu'on va vous poser comme question, comment on va vous regarder. Donc c'est vraiment compliqué.
L'objectif de ce forum du rebond était de changer le regard des entrepreneurs sur le dépôt de bilan et de renforcer la fraternité entre eux. Mais l'association veut aussi pousser les chefs d'entreprise à la réflexion. Écoutez Michel Ferré.
C'est Nelson Mandela qui le résume très bien. Soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. On rencontre tout au long de notre vie eh bien des situations qui pourraient s'apparenter à un échec, mais qui ne sont pas un échec. D'ailleurs, regardez un enfant, la façon dont on l'éduque, soit on lui apprend la notion d'effort, s'il ne réussit pas tout de suite, c'est pas grave. Il faut très simplement être très prêt, être très vigilant, etc. Et puis comme ça, et un jour, il prend son envol. Et puis, j'allais dire, c'est une problématique globale, hein, globale, mais là, qui s'exerce un peu plus dans le domaine économique.
L'association 60 000 Rebonds Grand Ouest compte 3 antennes dans les Pays de la Loire, en Vendée, en Loire-Atlantique et en Maine-et-Loire.
Fanny Brevet pour RCF Vendée. Merci beaucoup Fanny. On se retrouve la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, de nouveaux foyers de grippe aviaire ont été détectés en Pays de la Loire. Tout d'abord en Maine-et-Loire, à Sèvres-Moine, au Cerqueux. Et puis un nouveau foyer a été détecté dans une basse-cour de la Sarthe. Il s'agit du 4e foyer depuis la fin du mois de septembre dans ce département. L'épidémie a aussi repris en Vendée. 15 élevages vendéens ont fait l'objet d'un signalement depuis une semaine. Et déjà plus de 200 000 bêtes ont déjà été abattues depuis la rentrée en Vendée. Et puis toujours sur ce sujet de la grippe aviaire, les éleveurs veulent pouvoir tester le vaccin contre la grippe aviaire. La Chambre régionale d'agriculture a voté en début de semaine une motion qui demande à l'État d'agir rapidement face à la situation sanitaire. Les éleveurs veulent donc que la région devienne une terre d'expérimentation pour le vaccin. Les professionnels demandent aussi à l'État des engagements rapides sur la mise en œuvre des indemnisations en accélérant la prise en charge des aides sanitaires et économiques pour les élevages touchés depuis le mois de septembre. Et puis encore dans le domaine agricole, il y a de l'eau dans le gaz entre les syndicats agricoles différents de la région, en plein conflit sur les méga-bassines. La FRSEA des Pays de la Loire demande la dissolution de la Confédération paysanne. Le syndicat agricole majoritaire a déposé une motion en ce sens lors de la session de la Chambre régionale d'agriculture, c'était lundi dernier à Angers. Ils dénoncent, selon eux, la collusion dont aurait fait preuve la Confédération paysanne avec des groupuscules violents dans l'affaire de la bassine de Sainte-Soline. La FRSEA réclamait également que les deux élus de la Confédération paysanne qui siègent à la Chambre régionale en soient exclus. Pour l'instant, cette motion est restée lettre morte car la Chambre d'agriculture n'a pas le pouvoir d'exclure les élus de la Confédération paysanne, pas plus que de dissoudre le syndicat. Pour cela, il faudrait porter l'affaire devant la justice et la FRSEA n'en a pas l'intention.
L'Hebdo-Région, l'actualité religieuse.
L'enseignement catholique de la Sarthe a organisé lundi dernier sa journée des communautés éducatives. 2300 personnes se sont réunies à la salle Antares. Alors pour nous en parler, Paul-Joseph Bouladeau est avec nous. Bonjour Paul-Joseph.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors l'Antares accueille habituellement les matchs du Mans Sarthe Basket. Y réunir autant de monde, est-ce qu'on peut y voir une réussite alors pour le diocèse du Mans?
Bien sûr Thomas. Et la journée était ouverte au personnel éducatif, mais on notait la présence de nombreux élèves. Tous ont pu écouter les intervenants se succéder à la tribune. Et point fort de cette journée, un discours de Philippe Delorme, secrétaire général de l'enseignement catholique, venu exprès de Paris. Ce dernier a rendu hommage à toutes les personnes qui participent à cette mission de transmission.
Oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de petite mission au sein de l'enseignement catholique. Chacun, là où il est, qu'il soit croyant ou non, participe à la réalisation du projet éducatif. Et que lorsque je prends effectivement l'exemple souvent de celui ou celle qui répond en premier au téléphone, parce que c'est l'accueil qui est déterminant. Et la façon dont on répond au téléphone, eh bien on va dire déjà quelque chose de notre accueil.
En 2021, l'enseignement catholique de Sarthe a promulgué une charte d'écologie intégrale. D'après Philippe Delorme, cette dernière répond aux enjeux actuels.
On voit bien qu'elle répond. Elle répond à un besoin de spiritualité, à un besoin d'unifier le cœur, le corps et l'esprit, un besoin de se ressourcer par rapport à soi-même, aux autres, à la nature et à Dieu. Donc on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la façon dont cette charte aborde les questions, ça répond bien aux enjeux actuels de notre société.
Le secrétaire général de l'enseignement catholique voit dans cette charte l'inspiration des encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti.
C'est elle, sans doute, c'est ces encycliques qui nous inspirent. Mais effectivement, le pape le dit bien, il le rappelle tout le temps, il faut viser une fraternité universelle. Et ça va aussi dans le sens du pacte éducatif global auquel il appelle. C'est-à-dire que ça dépasse les frontières et qu'on soit capable de développer cette fraternité universelle.
La promulgation de cette charte a marqué une étape importante pour le diocèse du Mans. Paul-Joseph, est-ce que Philippe Delorme a mentionné d'autres projets?
Oui Thomas, il a d'ailleurs mis en avant un projet ligérien, celui du label international du diocèse de Nantes. Un projet axé sur la portée internationale du projet éducatif, notamment sur la mobilité des élèves.
Oui, il s'agissait de créer un label international pour des établissements. Et donc le diocèse de Nantes a expérimenté sur plusieurs années ce label. Et maintenant, ce sont tous les établissements de France qui peuvent bénéficier de cette expérience et de ce label qui valorise un peu un projet qui n'est pas uniquement centré sur l'enseignement des langues, mais qui est un projet d'ouverture à l'universel.
Philippe Delorme est également revenu sur les soupçons d'élitisme qui pèsent de manière constante sur l'enseignement catholique.
Oui, parce qu'on nous dit que, plus que de l'élitisme, enfin de l'élitisme social, là, c'est au sens d'un certain élitisme social, et qu'on ne serait pas ouvert aux classes sociales les plus défavorisées. Ce qui est faux. Ce qui est faux, jamais nous refusons un élève parce qu'il est issu d'une classe sociale défavorisée. Mais en revanche, il y a des obstacles financiers qui ne nous appartiennent pas et qui sont, nos élèves sont victimes victime de discrimination par rapport aux élèves du public. Ainsi, l'aide à la restauration scolaire qui est accordée dans les établissements publics ne l'est que très rarement ou insuffisamment pour les établissements privés. Donc ça constitue une charge énorme pour des familles qui n'ont plus la liberté de nous choisir en raison de cette discrimination qui existe.
Après cette matinée partagée à l'Antares, les élèves, les parents et le personnel éducatif se sont retrouvés l'après-midi dans leurs établissements respectifs.
Paul-Joseph Bouladou pour RCF Sarthe, merci à vous. Toujours dans l'actualité de nos diocèses, le père Jean Bondu a été nommé par le pape François évêque auxiliaire de Rennes. Il était jusqu'à présent vicaire épiscopal du diocèse de Luçon, curé doyen de Chalon et aumônier de l'enseignement catholique de Vendée. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'il va quitter la Vendée quelques jours après Noël, puis il sera ordonné le 22 janvier à Rennes. Il a choisi comme devise « Vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu ». Jeudi 1er décembre, l'Église universelle a fêté pour la première fois Saint Charles de Foucault. En effet, il a été canonisé le 15 mai dernier. Alors pour que la fête soit complète, la paroisse de Saumur, là où s'est déroulé le second miracle qui a permis la canonisation de Charles de Foucault, et là où Charles de Foucault a vécu durant 2 ans en tant qu'élève officier, eh bien cette paroisse organise tout un week-end de fête. Le programme est à retrouver sur le site internet de la paroisse de Saumur.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et pour terminer cette édition, je vous propose de sortir à la découverte du voyage en hiver. Et notre guide aujourd'hui, eh bien, c'est Simon Marty. Bonjour Simon.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Bon Simon, on connaît tous le voyage à Nantes, qui se déroule d'habitude durant la période estivale, mais là, le voyage se fait en hiver.
Eh bien, c'est tout simplement son pendant hivernal, Thomas, une façon de faire vivre la métropole nantaise au moment des fêtes de fin d'année. Depuis quelques temps, élus et commerçants demandaient à Jean Blaise d'imaginer une proposition audacieuse au moment de Noël. Mais pour lui, pas évident de trouver un juste équilibre dans cette période de l'année, comme il nous l'a confié.
Noël, c'est une fête religieuse. Bon, donc... Gardons l'équilibre, on ne va pas venir transgresser, provoquer au moment de cette fête. Et nous, notre credo, c'est aussi de laisser les artistes libres. Bon, mais on les connaît, les artistes.
Des artistes qui n'en font qu'à leur tête. Pourtant, avec Dominique Blé, le créateur de l'œuvre « À flot des reins », c'est une création particulièrement de circonstances qui a vu le jour. Une création sonore à l'aide des cloches de 12 églises pour faire voyager aussi notre mémoire et retrouver notre patrimoine. Du moins, c'est ce qu'espère Jean Blaise.
Quand j'avais 10 ans, j'habitais dans un village et à côté de chez moi, il y avait une église et qui sonnait régulièrement un rituel qu'on ne remarquait peut-être plus, mais qui rythmait notre vie. Et là... aujourd'hui, on n'entend plus que les sirènes des ambulances ou des pompiers, le bruit des bagnoles, voilà. Les bruits de la ville ne font plus appel à cette mémoire affective. Et donc, on a voulu, en activant les cloches des églises de Nantes, de 12 églises, et on s'est aperçu qu'il y en avait partout des cloches. Bon, ça nous paraissait vraiment intéressant de révéler à nouveau ce patrimoine, et puis aussi, si possible, et c'est je crois ce qu'on va faire avec la ville, mais aussi avec la DRAC, et aussi restaurer ce patrimoine, faire en sorte que, qu'il revive, et puis créer chaque année peut-être un rituel dans la ville, chaque année à la même période, oui, les cloches réanimeront, revivront.
Mais alors Simon, elle consiste en quoi exactement cette création sonore ?
Eh bien, Jean Blaise parle d'une symphonie créée avec des instruments que sont les cloches, une symphonie sous forme d'hymne à nos clochers.
Il a imaginé que de Notre-Dame du Bon-Port à toute Z, il allait avoir une espèce de marée. C'est-à-dire comme la mer remonte la Loire, on le voit ici à Nantes, c'est visible, eh bien il imaginait que ce son remontait d'ouest en est et redescendait d'est en ouest. Voilà, pour se retrouver à Sainte-Croix en quelque sorte, au milieu de ce périple. Bon, voilà. Donc l'idée est belle. Elle n'est pas tout à fait évidente quand on essaye de l'écouter, ou alors il faut prendre un vélo et puis aller aussi vite que les sons des cloches. Et à 18h32, là, les cloches commencent à sonner à partir de Notre-Dame du Bon-Port, etc., et remontent. Alors, ce n'est pas encore évident. Quand on est au pied de Sainte-Croix ou de Saint-Nicolas, on entend bien, vraiment. mais ça ne dure pas assez longtemps. Bon, il faut qu'on revoie cette question de rythme. L'idée était bonne, mais il y a vraiment un problème de rythme. Mais enfin, on entend quand même les cloches dans la ville à partir de 18h32.
Bon, alors vous l'avez compris, Thomas, c'est encore perfectible. Mais tout de même, une marée de cloches au moment où l'on se prépare doucement à fêter Noël, voilà peut-être de quoi le faire résonner différemment dans nos vies.
Simon Marty pour Fidélité Nantes. Merci beaucoup, Simon. On se retrouve la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité, un Vendéen a été sacré champion du monde samedi dernier. Il s'appelle Léo Bergère et sa discipline, c'est le triathlon. Avec ce sacre aux Émirats Arabes Unis, il devient le troisième triathlète tricolore titré et fait un pas de plus vers les Jeux de Paris 2024. Âgé de 26 ans, Léo Bergère est licencié au club de Saint-Jean-de-Mont. Le collectif Manceau Légitime Obstruction participe samedi au championnat du monde de breakdance à Tokyo. Ils sont 10 danseurs âgés de 21 à 32 ans à s'être envolés vers le Japon pour tenter de décrocher le titre mondial face à 14 autres collectifs venus des États-Unis, de Thaïlande, des Pays-Bas, de Chine ou encore de Grèce. L'an prochain, la Folle Journée en Région sera de retour. Ce grand festival de musique classique que vous connaissez bien maintenant fêtera ses 20 ans du 27 au 29 janvier. Le thème de cette nouvelle édition est une ode à la nuit. La billetterie ouvre à partir du 10 décembre prochain avec des tarifs toujours très attractifs allant de 2 à 12 euros. Toute la programmation est à retrouver sur le site internet du Conseil régional des Pays de la Loire. Voilà, c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres rédactions des radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite un excellent week-end.